C'est la septième fois que Renault remporte ce prix, la deuxième fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Il est midi, on se retrouve dans deux minutes pour la suite de Balade en France. Voici les titres d'Europe 1 Midi Week-end avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour William, bonjour à tous. Cette image choc, symbole de la guerre psychologique du Hamas contre Israël, celle de deux otages publiés implorant leur libération sous la contrainte. Nous irons à Tel Aviv dans une demi-heure. En parallèle, les manifestations étudiantes pro-palestiniennes se durcissent sur les campus américains. Mais qu'en est-il de la France ? La France insoumise appelle au soulèvement de toutes les universités. L'essayiste Joseph Massescaron sera en notre compagnie. Nous irons également à Givors où des incidents ont éclaté cette nuit entre jeunes et forces de l'ordre. Deux voitures ont brûlé devant la mairie. Et puis nous reviendrons sur les manifestations de janvier qui ne seront rien comparées à celles qui pourraient arriver. Voilà l'avertissement de certains syndicats agricoles. Patrick Legras de la coordination rurale est l'invité lui aussi d'Europe 1 Midi Week-end. Bien entendu, nous parlerons de sport comme chaque week-end sur Europe 1. Et Jacques Vendroux sera avec nous. Championnat, Ligue des Champions, Ligue 1, on commence enfin à entrevoir la fin de la saison.
Europe 1.
Voilà pour le programme, je vous donne rendez-vous dans une demi-heure. À tout à l'heure et je vous rends la parole, William.
Merci Lénaïque, on vous retrouve à midi et demi pour Europe 1 Midi Week-end.
Europe 1.
11h, midi 30.
Balade en France, William Lémergie.
Nous sommes à l'avant-dernière balade de ce jour, pour ceux qui venaient d'arriver. Alors là, ça va se situer à bord d'un bateau qui va naviguer sur le Doubs et que vous allez piloter vous-même, bien sûr. Alors rassurez-vous, c'est très simple, c'est un bateau électrique, silencieux, non polluant. Voilà, où va-t-on, Monsieur Gavitz, Clémenté Ruiz? Car vous parlez de ça aussi dans le guide du routard.
Bah ouais, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. On va découvrir une activité calme, William. Ah. Une activité à la portée de tout le monde. À peu près tout le monde peut le faire, hein, qui se passe sur le Doubs. On est autour de Besançon, Bezac, hein, pour les.
Il paraît qu'on dit ça.
Ouais, on dit Bezac pour les intimes, ouais. C'est comme ça qu'on dit.
Dans la région, ouais. Où tu vas, toi? Je vais à Bezac.
Ouais. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. Bon. C'est mes amis locaux, ils m'ont dit ça. Mm-hmm. Et pour le plaisir, vous allez même pouvoir, chose unique, hein, je trouve, emprunter une écluse historique que vous ouvrirez vous-même.
Ah bon, il va falloir apprendre ça aussi. Ouais. Alors, question, est-ce qu'on va réussir à le faire nous-mêmes? On verra. nous sommes en ligne avec Jean-Michel Lamy. Alors, Jean-Michel est responsable de pôle accompagnement et travail au sein de Solidarité Doubs Handicap. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à vous. Alors, et bienvenue à Bezac.
À Bezac, hein, c'est bien ça.
Confirmé.
C'est ça, je confirme.
C'est bien Bezac. Alors, il faudrait peut-être préciser, pour commencer, que cette activité est gérée par un établissement médico-social qui met en avant l'inclusion de personnes en situation de handicap, mais au service du grand public. C'est bien ça?
C'est ça, effectivement. Doubs Plaisance, c'est une activité qui dépend d'un établissement et service d'aide par le travail. Donc, qu'on appelle communément ESAT, elle est proposée aux personnes en situation de handicap dans le cadre d'un accompagnement médico-social qui vise à l'épanouissement professionnel et social de chacun.
D'accord.
C'est une activité que nous gérons par délégation de gestion des haltes fluviales qui appartiennent au Grand Besançon Métropole.
L'activité de promenade sur ce bateau, elle n'est pas réservée à des personnes qu'en situation de handicap, c'est pour tout public.
Ah, tout à fait, tout à fait. C'est l'activité elle-même qui est gérée par les qui
c'est est gérée, la gestion. En tout cas, par les...
La gestion.
Tout
voilà.
À fait.
Voilà.
Tout à fait. Tout à fait.
Je disais que c'est une balade en bateau électrique sur le Doubs et par la même occasion, nous voilà devenir éclusier. C'est facile ça ou pas?
C'est facile, oui. Après, il faut quand même avoir quelques explications avant de partir.
Oui.
Voilà.
Vous êtes là pour ça.
On est là pour ça, c'est-à-dire qu'avant le départ, on donne toutes les consignes. Ils ont même les consignes avec eux lors du trajet, voire on a un soutien de l'équipe. si c'est nécessaire. Donc, bon. Mais en soi, c'est pas très compliqué. Hein. C'est bon. Pas très compliqué.
Alors, il faut peut-être aussi expliquer aux auditeurs d'Europe 1 que le tracé de la rivière du Doubs, alors ça forme comme un C majuscule autour de Besançon, et que la ville, si vous voulez, si on fait un dessin, elle est au creux du C. Hein. Donc, on la voit parfaitement quand on se balade là, non?
Ah, complètement. Le circuit qui est proposé forme effectivement une boucle. Et le centre historique de la ville de Besançon se situe essentiellement au cœur de cette boucle, au cœur d'un C, hein, comme vous le soulignez. Et du coup, on voit en grande partie le centre de la ville. On peut apprécier effectivement depuis la rivière les ponts qui la traversent, les quais qui sont composés d'un ensemble de maisons à arcades qui ont été construites au XVIIe siècle. Et on longe les quais tout au long, toute en grande partie du parcours, sur la grande partie du parcours en tout cas. Et effectivement, il y a plusieurs sites qu'on peut explorer tout au long du parcours tranquillement.
Ah bon, ça c'est intéressant, mais on va voir ça avec Sarah. Oui.
Oui, Jean-Michel, expliquez-nous comment ça se passe. C'est-à-dire que l'embarquement se fait dans le centre-ville de Besançon, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Donc, les personnes peuvent réserver sur notre site internet, Doubs Plaisance, ou à l'office de tourisme de Besançon, ou même en direct. Hein, voilà. Et nous disposons de 4 petits bateaux de 4 mètres et nous proposons différents créneaux de balade qui vont de 10h à 19h tous les jours. Bah, sauf en cas d'intempérie ou en cas de vent trop important ou d'un courant trop fort. Ce sont les seules contraintes qu'on peut avoir qui nous empêchent de naviguer. L'embarquement, il se fait à la capitainerie de Moulins-Saint-Paul, au centre-ville, qui accueille également tous les plaisanciers qui viennent sur Besançon.
Oui.
Et donc, l'accompagnement se fait, effectivement, les consignes sont données par nos personnes en situation de handicap et qui remettent les gilets de chauffage obligatoires pour la balade.
D'accord.
Alors, oui, ça. Je voudrais savoir ce qu'on voit. Qu'on voit dans cette balade?
Ah oui, tout autour, quoi, c'est
tout
ça?
Tout autour, all around, comme disent les Américains.
Ah, il y a plusieurs sites, donc on peut voir effectivement la richesse du patrimoine de Besançon, puisqu'on y retrouve quand même beaucoup de fortifications médiévales hein, qui ont été construites entre le 15e et le 17e siècle.
Ah.
Donc tout au long du parcours, on a différentes tours, des tours bastionnées, donc comme la tour de la Plotte, des tours de Chamard, de Rivotte, le bastion du Moulin Saint-Paul, donc beaucoup de fortifications qui entourent Besançon. Hein. C'est une ville fortifiée. Hein. Surtout, on y voit la citadelle, qui est quand même le site majeur de Besançon et qui surplombe Besançon et qui est classé monument à l'UNESCO. Pardon.
Est-ce que nous pilotons ? C'est nous ?
Ah ben tout à fait, c'est vous les personnes qui pilotent eux-mêmes. C'est assez simple. Les bateaux sont bridés à 5 km/h, donc bon, ça laisse le temps quand même. Ouais. Le temps d'éviter les autres bateaux qui pourraient se présenter en face de nous.
Ça va, 5 km/h,
oui.
On risque pas 5 km, on risque pas l'excès de vitesse. C'est bien, Jean-Michel.
Tout à fait, tout à fait. Et surtout, ça nous permet quand même de bien visiter la ville
et de
découvrir aussi les différents monuments, quoi.
Alors, Sarah voudrait savoir si elle peut venir avec toute sa famille. On peut monter à combien à bord du bateau?
Alors, on peut monter à 5 personnes maximum, et effectivement, les enfants, bien sûr, doivent être accompagnés par leurs parents.
Bien sûr. À partir de quel âge on peut emmener les enfants ?
Oh, à partir de 2 ans, 3 ans, oui. Ce n'est pas une activité, c'est plutôt une activité tranquille et du coup sécurisée.
Bon. Et Jean-Michel, quand on part comme ça du port d'embarquement à la halte fluviale du Moulin Saint-Paul, on fait quoi ? On fait le C de la ville qui entoure la ville sur le Doubs, ou alors c'est un aller-retour
ou un W pour rendre hommage à William.
Non, on revient sur place ou comment ça se passe ?
C'est ça. On fait le tour de la boucle de Besançon, hein, qui du coup on passe sous un tunnel fluvial. Donc à partir de là, c'est là qu'on a quand même une écluse semi-automatique passer.
La fameuse.
Voilà. Et donc là, par contre, on peut se faire aider par un éclusier qui est présent sur site. Et puis par contre, on a une deuxième écluse qui se trouve juste après, qui est la fameuse écluse manuelle que l'on doit manipuler nous-mêmes. Tout est expliqué avant le départ, donc c'est assez simple. Mais c'est ce qui fait le charme aussi de cette balade.
Bah ouais, bien sûr. Ça nous fait combien de temps à peu près la balade? Un peu plus d'une heure, oui.
La balade, faut compter à peu près une heure et demie. Nous, on laisse un petit peu plus de temps, c'est-à-dire deux heures, de manière à ce que les personnes puissent apprécier la promenade et puis qu'elles soient pas stressées pour être là dans les temps.
Juste une dernière question. Est-ce qu'on peut s'arrêter par moment pour descendre, aller voir un peu plus près la citadelle ou pas, ou c'est pas prévu dans le cadre de cette balade-là?
C'est pas prévu.
Bon. Mais à 5 km heure, William, vous pouvez sauter carrément, revenir dans le bateau et rattraper
ou revenir après. Ah oui. Revenir après la balade.
Non, mais Jean-Michel, moi je vous suggère ça, je suis pas un professionnel, mais faire une balade comme ça, tout d'un coup, on dit, imaginons, il y a un guide, une des personnes qui est là pour aider, comme dont vous avez parlé tout à l'heure, peut dire, je peux vous faire visiter la citadelle si vous voulez, hop là, un petit coup de citadelle et on remonte et on repart. Donc, voilà, moi, je dis ça, je dis rien.
Hein. Faut quand même monter au-dessus de la colline pour être sur la citadelle. Ouais. Donc là, on prend un peu plus de temps.
Bon. Enfin voilà. Et on a tout dit. Bah oui, merci beaucoup pour cette visite rapide de Bezac. en bateau électrique sur le Doubs avec descente et montée avec l'écluse. Au revoir. Merci Jean-Michel. Bonne journée à vous.
Je vous remercie beaucoup.
Merci, au revoir.
D'autres infos, monsieur
Gavin? Eh bien, on va sur le site de Doubs Plaisance qu'on mettra sur europe1.fr et on réserve tout simplement. Ça coûte 50 euros pour une location, jusqu'à 2 heures de location, on l'a bien compris, pour 5 personnes.
Et si on veut rester sur place pour aller tout en haut de la citadelle, comme on vient de dire?
Eh bien oui, je vous conseille un petit hôtel, ça s'appelle Le Sauvage, c'est dans le quartier historique, au pied de la citadelle, William, ça sera super pour vous. Mm-hmm. Dans un ancien couvent Clarisse, jolie déco, très très cosy, très pleine de charme, chambre standard à partir de 115 euros, l'hôtel Le Sauvage à Besançon.
Très bien. Dans un instant sur Europe 1, une balade culturelle qui va vous mener à Meudon, près de Paris, pour une exposition consacrée à l'univers du jouet, mais celle-là est très très originale.
Balade en France, 11h30, William Lémergie sur Europe 1.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Chaque printemps, nous, producteurs de la coopérative de Noirmoutier, récoltons la pomme de terre primeur de l'île. La Noirmoutier, c'est un an de passion et de travail pour une saison qui ne dure que 3 mois. Cette année, plus que jamais, nous avons à cœur de vous régaler chez vous. Profitez-en maintenant. La Noirmoutier, unique, comme son nom l'indique.
Une série de crimes hors normes. Un réalisateur fou retiré dans ses montagnes. Une étudiante en cinéma trop curieuse. Pour l'inspecteur Servaz, l'horreur vient d'entrer en scène. Découvrez Un œil dans la nuit, un thriller glaçant de Bernard Minier aux éditions Pocket.
Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont 5000 femmes et hommes qui œuvrent au quotidien pour accompagner leurs clients et développer une économie durable. Jour après jour, la Caisse d'épargne Île-de-France poursuit sa mission, agir dans l'intérêt collectif et être utile à chacun. La Caisse d'épargne Île-de-France, une banque responsable, engagée au service de sa région.
La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe 1.
Pour la balade culturelle de ce dimanche sur Europe 1, donc, je vous propose avec Sarah Doraghi une plongée forcément ludique dans le monde du jouet. Mais attention, c'est pas uniquement réservé aux enfants, ça.
Ah bah oui, non. D'ailleurs, petit message personnel, hein, si vous avez l'opportunité d'aller jusqu'à Meudon, profitez-en parce que ça se passe dans un lieu qui, franchement, je vais vous dire, c'est une merveille, ça s'appelle le Hangar Y. C'est un ancien hangar industriel reconverti en espace culturel, 10 hectares d'exposition constitués de structures industrielles et de parcs verdoyants immenses. C'est complètement dingue.
Donc il y a les deux.
Il y a les deux.
Il y a un espace d'expo et puis il y a un jardin. Un jardin.
Et même un jardin d'expo même.
Ah oui.
Eh oui, tout est culturel ici.
Bon, alors qu'est-ce qu'on y voit dans cet endroit-là?
L'expo là qu'on vous propose s'intitule Rayon Jouet. Vous imaginez comme j'adore. Alors, imaginez un immense magasin de jouets, William, où se côtoient des trésors du passé et des créations d'artistes contemporains venus du monde entier. Et dès l'entrée, d'ailleurs, on est tout de suite plongé dans une sorte d'ambiance joyeuse, colorée, ludique, avec des chariots, des hochets vieux de plusieurs millénaires qui côtoient des poupées Barbie, des super-héros dernier cri. L'exposition ne se contente pas, figurez-vous, de retracer l'histoire du jouet. Elle nous invite à réfléchir à son rôle dans notre société et à son impact sur notre développement.
Ah bah dis donc, et oui, après, ça. Puis c'est très grand, ça va nous prendre du temps, chouette alors. Alors pour en savoir plus, s'il vous plaît, nous sommes en ligne avec Blanche de l'Étrange, commissaire associée de cette exposition. Bonjour Blanche.
Bonjour.
Alors deux choses d'abord, quel était l'objectif au départ de cette exposition? Parce que le monde du jouet c'est vaste. Alors, et puis d'où viennent ces jouets en question qui sont, il y a des objets aussi, il y a des œuvres qui sont présentées dans l'exposition?
Absolument. Alors, déjà, le départ de l'exposition, c'est qu'on sera dans une période autour des Jeux, puisque les Jeux Olympiques, et nous, on a fait un petit pied de nez en disant qu'on allait jouer, avec des jouets, voilà. des jouets pour une exposition qui s'adresse aux petits et aux grands, comme vous l'avez bien rappelé. Avec la question majeure au sein de cette exposition, qui est autour du conditionnement, finalement. Comment le jouet est à l'image de notre société, de la société dans laquelle on vit.
On a des jouets qui nous ressemblent
Non, mais on a des jouets, on va avoir plusieurs catégories dans l'exposition, qui est vue comme effectivement une sorte de grand magasin de jouets, dans la scénographie très coloré, des rayonnages, très ludiques, très participatifs, et avec différentes catégories, des catégories autour de, par exemple, la question de l'identité. Quand on parle des Barbies, c'est la première poupée femme adulte produite à l'époque, dans les années 60, et donc ça a eu une révolution, évidemment, sur la question... notamment de la construction de l'identité des enfants.
Absolument, pardon. Je vais juste vous dire une poupée qui m'a fait, moi, beaucoup souffrir, parce que quand on est petite fille et qu'on a une Barbie, on a envie de ressembler à cette Barbie. Comment voulez-vous qu'une petite basanée avec des cheveux noirs, etc., puisse un jour ressembler? Donc je savais déjà que c'était foutu en regardant les Barbies.
Figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a énormément, et c'est pour ça qu'on a une dimension très contemporaine, il y a beaucoup de questionnements qui se passent sur les producteurs de jouets. Alors nous, on n'est pas producteurs de jouets, on travaille avec les artistes et des objets anciens qui sont des jouets, depuis moins de 1000 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de questionnements sur justement comment être représentatif de la société dans laquelle on vit.
Absolument.
Donc les producteurs de jouets changent, les mentalités changent, mais depuis la nuit des temps, et puis depuis même au début du siècle, il y a des jouets de propagande. Donc en fait, finalement, selon la société dans laquelle on vit, les actualités, il y a beaucoup de jouets qui ont été créés pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, qui était aussi en lien avec les questions de conflit.
Mais c'est un panorama, c'est un panorama de plusieurs dizaines, voire centaines d'années, parce que vous avez récupéré des pièces très très loin. Ça n'a pas été facile, ça, d'aller chercher des jouets anciens au bout du monde.
Pas facile, mais ça fait partie de l'identité aussi du hangar grec, c'est de mêler les époques, de pouvoir avoir des objets très anciens avec une dimension très contemporaine. Et donc on a parmi les jouets les plus anciens du monde, moins 2000 avant Jésus-Christ, des objets qui à l'époque étaient en terre cuite,
en bronze, de la Mésopotamie.
Alors effectivement de très loin, plutôt de la Mésopotamie, mais qui sont dans des collections françaises.
Ah bon?
Puisqu'il y a le musée du jouet de Moirans en Montagne, qui a les jouets les plus anciens du monde. On a le musée des arts décoratifs, avec qui on a une très belle collaboration, plus de 40 jouets, et ils ont une des collections les plus importantes d'Europe. Sur les jouets, ils ont plus de 15 000 jouets dans leur collection. On a le MUCEM avec des jouets qui ont été faits de manière artisanale, avec du maïs, etc., des poupées. Donc ça montre qu'à l'époque, il y avait toute une réflexion aussi autour du fer à la main, la fabrication des jouets, etc. Et puis des jouets de Lima, l'Institut du Monde Arabe, qui pourraient être vus comme les premières Barbies, puisque c'est des toutes petites poupées très très anciennes, là aussi, qui sont... voilà, en terre, en pierre.
Pour les jouets anciens, vous aurez dû demander à William de prêter ses jouets d'enfance.
Bah, écoutez, tout le monde a un âme de joueur, et donc j'imagine que tout le monde va se reconnaître d'une manière ou d'une autre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une exposition qui est très participative, donc qu'elle soit pour les enfants ou pour les
tout
adultes,
le monde s'y retrouve.
Tout le monde s'y retrouve et tout le monde va pouvoir jouer.
Sarah, qui est un peu moqueuse, se moque de mon grand âge, mais en plus, elle ne sait pas que j'ai été collectionneur de jouets et que j'ai une collection unique de Dinky Toys.
Qui date
d'avant-guerre. Bon, je vous raconterai
donc
ça.
Donc voilà, vous pourrez appeler William après l'émission.
On a découvert des choses absolument fascinantes, extraordinaires autour du jouet. Et puis après, on a la dimension contemporaine qui est très importante.
Ah bah oui.
Comme vous l'avez rappelé, on a des artistes parmi les plus importants sur la scène internationale, des artistes qu'on va découvrir en France pour la première fois. Donc cette dimension aussi du regard contemporain
des artistes. Des noms, Blanche. On veut des noms des artistes contemporains.
Noms, vous voulez des noms.
Oui,
des noms.
La liste est longue, t'as vu comme c'est grand.
La liste est longue, donc je vais évidemment
non,
faire
non,
une sélection.
Ce qu'on voulait savoir, c'est quand vous parlez des œuvres d'artistes, enfin, c'est-à-dire ils ont fait des pièces uniques ou ils ont dessiné pour des grandes marques de jouets.
Non, pas du tout. C'est des pièces qui sont liées à la thématique de l'enfance, du jouet, etc.
Ah bon.
Il y a une pièce de Cindy Sherman, par exemple, dans les artistes connus, Cindy Sherman, Francis Alice, etc. Francis Alice qui a fait toute une série sur les Children Games, donc les jeux dans différents pays, comment les enfants fabriquent eux-mêmes leurs propres jouets. Cindy Sherman autour de la notion du corps, donc comment finalement parler de la Barbie. Elle a fait une vidéo qui s'appelle Doll Closes où elle s'habille elle-même avec différents habits de poupées. Donc voilà, il y a vraiment, les artistes se sont emparés de ce sujet depuis longtemps. Et on a un artiste qui s'appelle Charlemagne Palestine qui a collectionné des milliers de peluches qu'il appelle des divinités, donc avec une dimension aussi là plutôt chamanique. Donc il y a vraiment beaucoup d'artistes qui s'intéressent à ce sujet depuis longtemps. Donc ça nous permet de réunir des artistes de tout horizon.
Blanche, évidemment, le jouet, c'est pas simplement le côté pour l'aspect ludique, c'est plus qu'un simple jouet et ça peut véhiculer justement des messages. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qui se fait aujourd'hui avec l'évolution des mentalités?
Alors, effectivement, c'est pas que ludique, ça reste c'est à la base un objet aussi d'éducation, d'émancipation, mais comme je disais, ça peut être aussi un objet de propagande autour de la notion de conflit. On a beaucoup de choses de réflexion des artistes autour des ressources naturelles aujourd'hui, puisque évidemment, il y a eu un changement majeur avec l'arrivée du plastique, l'industrialisation, la surcommercialisation du marché du jouet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions autour du retour à des matériaux plus naturels, comme c'était le cas pour les objets, d'ailleurs les jouets les plus anciens. Donc il y a beaucoup d'artistes qui questionnent ça. La question de l'emballage, la question de système de production.
Ah oui, donc on revient un peu, les artistes tirent la sonnette d'alarme et on revient un peu à ce qui se faisait avant, c'est-à-dire on change de matière.
Oui, il y a forcément des questions par rapport à une surindustrialisation, une commercialisation. Mmh. Nous, on a appelé Rayon Jouet aussi pour questionner ce type d'enjeux qui sont aussi très actuels.
Et sûr, Blanche, dans une expo sur les jouets, est-ce qu'on peut jouer?
on peut jouer. Alors, on peut pas tout toucher, évidemment, parce que les objets les plus anciens, vous imaginez bien que pouvoir jouer avec. Mais
il y a des expériences immersives.
Non, il y a des œuvres participatives. Il y a des œuvres où on peut se déguiser pour les enfants.
Ah, génial.
Il y a des voitures télécommandées qu'on peut activer. Une œuvre d'une artiste aussi qui vient d'avoir une exposition personnelle au CAPC à Bordeaux. Donc voilà, il y a un lit d'artiste sur lequel on peut s'allonger, qui fait comme une sorte de chambre d'enfant. Donc il y a vraiment l'idée de pouvoir.
C'est immersif.
C'est immersif. C'est très interactif. C'est participatif. On fait une scénographie qui est très pop, très colorée, qui reprend vraiment cette idée de déambulation de parcours. On pourra avoir passer d'entre les cimaises, même à travers le parcours d'exposition en tant que tel, on va s'amuser.
Une phrase, Blanche, peut-être sur le hangar Y, l'endroit, parce qu'il est magnifique. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots à quoi ça ressemble et c'est quoi son histoire?
Alors c'est un endroit absolument exceptionnel, effectivement à quelques kilomètres de Paris, qui a une histoire à la fois industrielle de ce bâtiment qui était un peu l'emblème de l'aéronautique au début du XXe siècle, et puis en même temps qui est dans un parc complètement immergé dans la nature. Donc c'est une source d'inspiration déjà pour les artistes et pour le public. C'est une sorte de petite parenthèse enchantée juste à côté de Paris où on peut découvrir plus de 25 œuvres dans le parcours, dans le parc, qui est un parc historique pour le coup avec une perspective André Lenôtre. Donc on est entre l'histoire, le patrimoine, l'industrialisation avec cet immense hangar. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup autour de la nature, de la science, de la culture, évidemment, avec tous les artistes qu'on invite à
exposer. Merci beaucoup.
Voilà, à exposer.
Absolument. Super.
Merci beaucoup, Blanche.
En tout cas, on vous attend tous.
Oui, ben, on arrive.
D'ici mai, pour venir jouer avec nous.
Oui, on n'est pas nombreux, on est 6, là. Non, ça va.
On arrive, Blanche. C'est pas mal.
On va jouer.
Merci beaucoup.
Merci, Blanche.
Voilà, ça se passe donc à Meudon. Vous nous rappelez tout ça?
Oui, les infos pratiques. Bien sûr. Alors, pour la visite de l'expo Rayon Jouet, bah c'est 10 euros plein tarif, 7 euros tarif réduit, gratuit pour les moins de 6 ans. Et puis, c'est ouvert de 10h à 20h, les week-ends, jours fériés de 11h à 19h. Tout le reste, tout ce que vous voulez savoir, bah vous allez le retrouver dans nos infos sur le site europe1.fr. Je vous embrasse, gros bisous.
Avant de partir, je voulais vous signaler à propos de nos petits camarades que du lundi au vendredi, c'est de 15 à 16h sur Europe 1. Stéphane Bern vous fait le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire avec un grand H. Alors, demain, Gavin.
Et oui, demain, il va retracer l'histoire de Lili Bollinger, une dame qui a fait dans le Champagne.
Bah oui, quand on s'appelle Bollinger, ça, c'est sûr. Alors, pour tous ceux, ça peut arriver, hein, et je vous pardonne, qui n'auraient pas pu suivre aujourd'hui cette émission en entier, vous avez une bonne excuse, ça tombe bien. Voici le récapitulatif des balades de ce dimanche. On commence par vous, Gavin.
Ouais, nous sommes allés dans les Côtes d'Armor, près de Perros-Guirec, sur la côte de Granit-Rose, pour découvrir quoi ? Pour découvrir le Radôme. C'est le centre de télécommunication qui est à l'intérieur de ce Radôme, bon, dans l'Oise.
Il a inventé quasiment la transmission...
Pour aller voir les hommes sur la Lune.
Oui,
qu'on pouvait exemple. Carrément voir chez soi, c'était vraiment fou.
Ensuite,
on est allé dans l'Oise, on a visité une usine de brosses à dents, entre autres la brosserie française, c'était à Beauvais. Dans l'Essonne, on s'est arrêté dans l'ancienne demeure de Jean Cocteau, à Milly-la-Forêt.
Elle est restée dans son jus. Hein.
Ouais, et là, ils ont ouvert un étage dédié à Jean Marais.
Ouais.
Et enfin, à Besançon, à Bezac, comme on dit dans le Doubs, on a fait un tour en bateau électrique en passant nous-mêmes l'écluse.
Et puis, grâce à Fabrice Mignot, nous savons tout de l'histoire et de la confection des biscuits roses de Reims. Et puis André Dussolier également était chez nous aujourd'hui au micro de Daniel Moreau pour nous parler de son île de cœur. C'est l'île de Ré où il allait enfant avec tous ses petits cousins. Et puis avec vous, Sarah, nous connaissons désormais l'origine de l'expression « à la voyure ». Et puis, oh bah ça c'était il y a un instant. Alors, nous sommes allés
au hangar Y à Meudon pour l'exposition Rayon Jouet dans un lieu gigantesque. On a appris beaucoup de choses sur l'histoire du jouet à travers le monde.
Merci à tous et à toutes. Merci à Maryse Jacquet, à Christophe Pierrot, à Inès Arom, à Sarah Doraghi, Gavins Clémenté et Ruiz. Rendez-vous la semaine prochaine pour 7, mais oui, il y en a 7 par émission, figurez-vous. Il y a 7 lieux dont on vous parle. 7 nouvelles balades à travers la France. Et n'oubliez pas, avec les beaux jours qui approchent, si vous cherchez des idées de promenade, vous pouvez retrouver toutes nos émissions en replay, comme on dit en bon français, sur europe1.fr. Ou alors, c'est pas fini le bon français, ou en podcast sur les applications dédiées. Et puis, dans un instant, vous allez retrouver Lénaïque Maudier pour Europe 1 Midi Week-end, à dimanche prochain, à 11h.
Europe 1.
Nous sommes recordman d'Europe en matière de prélèvements obligatoires. Est-ce qu'on peut continuer sur une pente à la grecque ou est-ce qu'on redresse ce pays ?
On tient, on résiste et on assume un principe de laïcité.
Il y avait beaucoup plus d'insouciance, en tout cas il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une peur généralisée.
Si vous êtes condamné à moins de 6 mois de prison, vous n'allez pas en prison. Attendez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas si grave que ça.
Je vous jure que le temps que je fasse mon lacet, que je relève la tête, j'ai vu le couteau se planter.
On ne peut pas continuer comme ça à exposer nos enfants, la jeunesse, à des formes de violence inouïe.
Quand l'enfant, c'est pas un droit. Quand on le fait, c'est qu'on le veut et qu'on doit l'assumer.
Europe 1.
En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores ? Réponse ce mardi dès 21h sur Europe 1, dont La France bouge, présentée par Elisabeth Assayag, avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque.
Entre passé et présent, héritage culturel et création contemporaine, l'artiste Jiang Chong-er réinterprète les traditions chinoises millénaires au musée Guimet. Des installations monumentales et spectaculaires, une réflexion visionnaire sur le temps, un parcours sensoriel et spirituel comme un pont entre la France et la Chine. Gardien du temps à découvrir dès maintenant au Musée Guimet avec Europe 1.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Europe 1.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est midi et demi.
Europe 1 midi week-end, midi 30, 13h, Lénaïque Monnier.
Une image choc, symbole de la guerre psychologique du Hamas contre Israël, celle de deux otages publiés implorant leur libération sous la contrainte. Dès le début du journal, nous irons à Tel Aviv. En parallèle, les manifestations étudiantes pro-palestiniennes se durcissent sur les campus américains, mais qu'en est-il chez nous? La France insoumise appelle au soulèvement de toutes les universités de France. L'essayiste Joseph Massescaron sera avec nous. Nous irons à Givors dans quelques minutes, où des incidents ont éclaté cette nuit. Ça s'est passé entre jeunes et forces de l'ordre, juste devant la mairie. Et puis les manifestations de janvier ne seront rien comparées à celles qui pourraient arriver. L'avertissement de certains syndicats agricoles, pas convaincus par les annonces hier de Gabriel Attal. Patrick Legras de la Coordination Rurale est lui aussi l'invité d'Europe 1 Midi Week-end. Et puis Jacques Vendroux sera avec nous dans ce studio. Championnat, Ligue des Champions, on commence à entrevoir la fin de la saison. Voilà pour les titres, on les développe juste après votre tendance. Bonjour Mickaël Poteau.
Bonjour Lénaïque. Eh bien sachez qu'il y a beaucoup de pluie attendue dans le sud-est aujourd'hui, des averses proches de la Manche et le long de l'Atlantique et un très beau soleil pour la Corse avec des températures avoisinant les normales de saison.
Et météo complète avant 13h.
Europe 1.
Et le Hamas qui choque donc les familles d'otages avec une vidéo de deux d'entre eux, Kiss Siegel, 64 ans, Omri Miran, 47 ans, assis sur des chaises en plastique devant un mur blanc, probablement sous la contrainte, ils se disent en danger à cause des bombardements israéliens et implorent leur gouvernement de trouver un accord avec les terroristes. Dans la foulée à Tel Aviv, les familles d'otages ont une nouvelle fois manifesté pour réclamer leur libération à Ryan Enaj.
Oui, leur identité a été confirmée par leurs familles qui sont d'abord soulagées d'avoir une preuve de vie. Cette vidéo de près de 3 minutes, vous en entendez ici un extrait, n'est pas datée, mais l'un des deux otages fait référence au fait de Pessah, la Pâque juive qui se termine demain soir. Visiblement filmé sous la contrainte, Omri Miran et Kiss Siegel appellent à faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'un accord de libération soit conclu. La publication de cette vidéo a été suivie de manifestations ici à Tel Aviv, mais aussi comme chaque samedi soir dans plusieurs villes à travers le pays. Aviva Siegel, elle-même ancienne otage libérée en novembre dernier, lance un message qu'elle espère entendu par son époux.
Kiss, je t'aime, on va se battre, jusqu'à que tu reviennes.
Après des semaines de blocage dans les négociations, le Hamas affirme étudier une contre-proposition israélienne pour un accord de trêve et de libération des otages.
La correspondance d'Ariane Ménage à Tel Aviv pour Europe 1. Et puis en ce qui concerne les combats, le Hezbollah libanais a lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël, elle l'a annoncé la nuit dernière. 3 positions militaires étaient visées, affirme-t-il, en réponse à des frappes israéliennes qui ont tué 3 civils dans le sud Liban, selon toujours l'allié du Hamas. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, près de 200 manifestants pro-palestiniens ont été arrêtés hier dans des universités bloquées depuis plusieurs jours aux 4 coins du pays. Des arrestations qui ont eu lieu à New York, à Boston, dans l'Indiana ou encore l'Arizona. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, hier matin à l'aube, des policiers anti-émeutes ont pénétré dans le campement établi par les manifestants à Boston. Ils l'ont démantelé et ont arrêté plus d'une centaine de personnes. Ceux qui pouvaient prouver qu'ils sont bien étudiants ont été relâchés mais seront sanctionnés par la direction. Pour les autres, direction la prison. Les responsables de l'université justifient leur fermeté en rapportant que des propos antisémites auraient été tenus, notamment des cris de mort aux juifs. Pas question après ça de laisser la situation se dégrader encore plus. À Colombia aussi, les manifestants sont sous le feu des critiques après la publication d'une vidéo dans laquelle l'un des meneurs du mouvement, Kimani James, tient des propos extrêmement violents.
Les sionistes ne méritent pas de vivre. Je suis très à l'aise quand je dis que ces gens doivent mourir. Soyez heureux que je ne sois pas dehors en train d'assassiner des sionistes.
L'étudiant a depuis été exclu, mais de plus en plus, les universités semblent vouloir reprendre le contrôle et ne plus tolérer les campements. Depuis le début du mouvement, plus de 700 arrestations ont eu lieu dans tout le pays.
La correspondance d'Aviva Fried aux États-Unis, un phénomène qui a depuis franchi l'Atlantique pour arriver en France. Il n'y aura jamais de droit au blocage, a répété hier le Premier ministre, sauf qu'hier, une autre école, un autre IEP était occupé, l'Institut d'études politiques de Reims, comme celui de Paris vendredi dernier. Conséquence, déménagement en urgence d'une convention de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme qui devait s'y tenir. La LICRA qui accuse des militants insoumis d'encourager ces actions. Bonjour Joseph Massescaron.
Bonjour.
Analyste, essayiste, vous intervenez régulièrement dans Europe 1 Midi Week-end. Comment analysez-vous ce qui se passe aujourd'hui à Sciences Po?
Je cherche mes mots tellement je crois que toutes les personnes qui analysent et qui observent ce qui est en train de se passer à Sciences Po n'arrivent pas à croire que aussi bien l'administration de Sciences Po, le communiqué qui a été donné pour rendre du public, que la ministre des universités, Mme Retailleau, on a du mal à imaginer que leurs mains tremblent à ce point. Quand vous avez fait référence vous-même au fait que l'administration Biden, elle, n'hésite pas, et personne ne comprend pourquoi on permet à ce qu'à Sciences Po se passe ce qui se passe, c'est-à-dire l'extension du domaine de l'antisémitisme, et ça en toute impunité. Donc vraiment, j'ai objectivement du mal à Sciences Po, est quelque chose qui m'est cher, j'ai été élève de Sciences Po, j'ai enseigné à Sciences Po, donc c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. Juste pour les personnes qui nous écoutent, il faut savoir que la famille de Jean-Paul Fitoussi, c'est un immense économiste, hein, reconnu internationalement, économiste français, qui pendant 40 ans à porter l'Institut des sciences politiques de Paris, la famille dotait Sciences Po de bourses hein, pour aller dans la continuation de leur père, et ils ont fait un communiqué en disant c'est plus possible, on ne peut plus subventionner Sciences Po. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se déliter. Quand on voit en plus le communiqué du Hamas, parce qu'il y a eu un communiqué du Hamas pour condamner justement l'administration Biden et pour encourager ces types d'actions dans les campus en Occident, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Qu'est-ce que dit le Hamas? Il termine en disant « Les étudiants d'aujourd'hui sont les leaders de demain », c'est-à-dire les étudiants qui soutiennent le Hamas, organisation terroriste, bien évidemment, sont les leaders de demain. Alors si on veut éviter que des étudiants soutenant une organisation terroriste soient les leaders de demain, je pense qu'il n'y a que la sanction.
Avec la France insoumise hein, qui souffle sur ses braises, hein, Joseph Massescaron, c'est ça aussi.
Oui, c'est-à-dire que, de fait, d'ailleurs, c'est dans sa transparence de cristal, pardonnez-moi, c'est-à-dire que le Hamas soutient les actions de la France insoumise et que la France insoumise, depuis le début, depuis le 7 octobre, soutient en fait le Hamas en refusant de reconnaître l'action et l'horreur de ce qui a pu être des actions commises par le Hamas. Donc c'est quelque chose, enfin, on a l'impression aujourd'hui en France que les parlementaires de LFI, c'est un peu la branche politique du Hamas, pardonnez-moi. C'est ce qui est quand même fou. C'est-à-dire comment peut-on admettre simplement que des responsables politiques en France soutiennent et reprennent des éléments de langage d'une organisation terroriste. C'est une question fondamentale.
C'est une question fondamentale, Joseph Massescaron, et on sait à quel point le milieu étudiant peut aussi justement s'enflammer, être instrumentalisé. Vous pensez que ça peut s'étendre à d'autres IEP, d'autres Sciences Po, voire d'autres universités en France ?
Alors oui, j'étais étonné d'ailleurs que ce soit l'IEP de Reims et pas celle de Grenoble qui évidemment, malheureusement s'est fait tristement connaître pour des propos et des actions qui étaient extrêmement proches du mouvement woke ou de la France insoumise. Mais oui, bien sûr, évidemment que ça peut s'étendre. C'est-à-dire que les militants de LFI vont tout faire pour que cela s'étende. Mais moi, ce qui me frappe, pardonnez-moi, c'est que, évidemment, c'est une parole de boomer, mais quand j'étais à Sciences Po, j'ai connu des affrontements réels hein, entre les gens qui étaient pour Keynes, les gens qui étaient pour Marx, les gens qui étaient, etc. etc. Mais je n'ai pas connu une telle pauvreté de slogans. Je n'ai pas connu une telle amnésie. Parce que, quand même, juste, je veux bien qu'on fasse du Hamas le fer de lance de la cause palestinienne, mais on ne peut pas oublier quand même que le Hamas a défenestré des centaines de militants oui. du Fatah pour se débarrasser du Fatah à Gaza. Enfin, je veux dire, c'est simplement avoir un minimum de connaissances historiques qu'apparemment les manifestants n'avaient pas.
Et on comprend que vous soyez atterré, Joseph Massescaron, ancien étudiant à Sciences Po, ancien enseignant également à Sciences Po.
Oui, absolument.
Merci d'être intervenu en tout cas sur l'antenne d'Europe 1 pour nous porter votre éclairage. Il est 1h20 sur Europe 1 et dans l'actualité également, un homme de 19 ans tué par balle sur un point de deal à Marseille. Ça s'est passé hier soir dans le quartier de la Belle de Mai. C'est vraisemblablement, selon les autorités, le troisième narcomicide de l'année. Et puis de violents incidents, on le disait en titre, ont éclaté hier soir vers 22h15 en plein centre-ville de Givors, c'est dans le sud de Lyon. Des groupes de jeunes très mobiles ont allumé plusieurs feux, ont tiré des mortiers. Deux voitures de police ont été incendiées devant la mairie. Bonjour Noémie Loisel, vous êtes sur place pour Europe 1. Vous en savez plus sur le pourquoi de ces échauffourées.
Oui, vers 22h hier soir, deux véhicules de la police municipale ont été incendiés et des tirs de mortiers ont aussi été lancés en direction des forces de l'ordre. Ces violences seraient des représailles. Les individus auraient voulu tendre un guet-apens aux policiers. Plus tôt dans la soirée, quatre mineurs âgés de 13 à 16 ans avaient été placés en garde à vue, suspectés d'avoir agressé un autre mineur. Ce matin, les habitants sont en colère.
J'habite là. Hein, et ils ont sorti les poubelles dans le garage, dans le sous-sol, et ils ont brûlé 5 poubelles. Ça doit faire 3 mois à peu près. Vous croyez que c'est normal?
Ils s'attaquent à la police municipale, ils s'attaquent aux gens qu'ils devraient respecter. Ils ne respectent rien.
Un sentiment de colère partagé aussi par le maire de la commune, Mohamed Boudjelaba, qui condamne fermement ces violences.
Aujourd'hui, ces fauteurs de troubles doivent être condamnés. Nous gênons beaucoup de monde et nous allons continuer à les gêner. Et là-dessus, je vais déployer encore un peu plus de forces de police municipale dans les prochaines semaines, dans la mesure de mes moyens financiers.
Ce soir, la police nationale devrait d'ailleurs être à nouveau sur place pour assurer la sécurité et éviter de nouveaux débordements.
Merci Noémie Loisel depuis Givors près de Lyon pour Europe 1. Voilà qui nous amène à notre sondage du jour. Faut-il supprimer les allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes? Selon l'étude CSA exclusive pour Europe 1, CNews et le journal du dimanche, près de 3/4 des Français y sont favorables, à Alexis de la Fontaine.
72% des Français veulent que l'État retire les allocations sociales aux parents d'émeutiers, une mesure soutenue par 9 militants de droite sur 10 et jusqu'à 95% au Rassemblement National. Chez les sympathisants d'Emmanuel Macron, le résultat est également sans appel, avec 80% d'opinions favorables. Même au sein de la gauche la plus radicale, 50% des électeurs demandent la suppression des aides de l'État pour les parents de récidivistes, alors que le Parti Socialiste, les écologistes et la France Insoumise sont farouchement opposés à cette mesure. La preuve qu'une large majorité de la population souhaite désormais des décisions fortes pour faire face aux émeutes. Enfin, les résultats laissent apparaître un décalage générationnel. Plus les personnes sont âgées, plus elles soutiennent cette idée.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Plus de fermeté également dans la lutte anti-drogue et anti-crime organisée. C'est ce que souhaite le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Et pour cela, il annonce la création d'un parquet national dédié sur le modèle italien contre la mafia.
Europe 1 midi week-end. Midi 30, 13h, Lénaïque Monnier.
Les agriculteurs préviennent, même après les annonces du gouvernement hier, ils vont rester vigilants, ils vont rester attentifs, car il faut encore que ces 14 mesures dévoilées par Gabriel Attal soient appliquées, voilà ce qu'ils disent, et le compte n'y est pas. Bonjour Antoine Bienveau.
Bonjour Lénaïque.
Et pourtant, le Premier ministre espérait calmer la fronde agricole avec cette série d'annonces.
Oui, mais cela va être compliqué, car il faut le dire, ces mesures sont loin de faire l'unanimité chez les syndicats. La FNSEA, par exemple, salue ce nouvel effort, mais attend désormais du concret. Selon le vice-président de la FNSEA, Patrick Bénézy, ces annonces ne constituent donc en rien une sortie de crise.
Aujourd'hui, tout est annoncé. Par contre, quasiment rien n'est dans les cours de ferme. On saluera quand il y aura la concrétisation. Et si effectivement les choses n'arrivent pas rapidement, eh bien les blocages peuvent ne pas être clos.
Continuer les blocages, c'est aussi ce qu'envisage José Pérez, coprésident de la coordination rurale du Lot et Garonne. D'autant que selon lui, il manque dans ce paquet d'annonces un élément fondamental pour répondre à la colère paysanne.
Nulle part on vous parle de revenus. Et aujourd'hui, l'agriculteur, il veut du revenu. Tant que l'agriculteur n'arrivera pas à s'assurer un revenu décent, la problématique restera la même. À la fin de l'année, s'il n'y a rien qui bouge, que l'État se prépare parce que ça va être compliqué là.
La fin de l'année, voilà donc l'échéance qu'il se fixe pour faire le bilan. Et en cas de déception, il promet que les blocages pourraient alors être encore plus importants que ceux du mois de février.
Merci beaucoup Antoine Biavo pour vos explications. On accueille à présent sur Europe 1 Patrick Legras, bonjour.
Bonjour.
Agriculteur dans la Somme, porte-parole de la coordination agricole. On a entendu votre collègue dans le sujet d'Antoine Biavo il y a un instant. En quoi est-ce que vous vous démarquez de la FNSEA et des jeunes agriculteurs exactement?
Alors on n'est pas coordination agricole, c'est coordination rurale, c'est pas grave. La différence aujourd'hui de la coordination rurale, c'est qu'on remonte le mal-être du terrain. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on ne peut être en accord avec le gouvernement à partir du moment où le terrain est satisfait. Le terrain n'est pas satisfait. On l'a déjà dit et répété, et comme j'ai pu le dire hier, je pense que si on était tous autour de la table, comme on l'avait demandé depuis 2 mois, on aurait avancé beaucoup plus vite. Là, il y a des tests, il y a des contacts qui sont faits à droite, à gauche. On refait quelque chose, on refait un jus, et c'est le problème. On va prendre plusieurs exemples. Par exemple, est annoncé une centaine de bassins de rétention d'eau. C'est très bien. Mais pourquoi 100? Pourquoi pas 80? Pourquoi pas 120? Pourquoi pas 500? On sort un chiffre comme ça du chapeau, je dirais, qui n'est pas la réalité. Nous on veut pas des réserves d'eau pour des réserves d'eau parce qu'il y a des... On en veut parce qu'il y a des problèmes. Donc aujourd'hui, il faut
parce
être
que vous
plus
connaissez
proche
vos
du terrain.
Besoins.
Et c'est ce qu'on leur reproche aujourd'hui. C'est ce qu'on leur reproche aujourd'hui, c'est qu'on veut que ça colle au terrain et à la réalité. Mais ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme a dit les prédécesseurs, c'est qu'aujourd'hui, on veut un retour rapide. Et ça fait, depuis le mois de janvier, on nous dit que ça va arriver rapidement. Vous vous rendez compte, on est fin avril. Aujourd'hui, quand vous avez les éco-régimes, on vous dit qu'avec des problèmes d'informatique, on ne peut pas verser l'argent aux agriculteurs. Non mais vous croyez que ça tient la route, ça, honnêtement? Donc c'est pour ça, aujourd'hui, on nous dit, on n'est pas contre... Par exemple, la retraite, c'est des points très importants d'avancer. Mais c'est des points qu'on a demandé il y a des années. Et il faut attendre plusieurs années pour que ça arrive. Et là, pour le reste, on n'attendra pas des années, comme ont dit les collègues. Et la première grande manifestation qui va être faite, en plus des manifestations terrain, c'est à Bruxelles, le 4 juin, où plusieurs dizaines de milliers d'agriculteurs vont se rassembler pour montrer le ras-le-bol d'une politique de blabla, et non pas une politique de fait.
Alors vous dénoncez des mots, hein, Patrick Legras, plutôt que des actes. Est-ce que vous attendez la rencontre avec Emmanuel Macron? Il l'a suspendu, il l'a reporté à plusieurs reprises. Est-ce qu'il vous a donné rendez-vous? Marc Fesneau disait hier que vous pourriez le rencontrer dans la semaine.
Mais aujourd'hui, c'est sa volonté de nous rencontrer. La volonté de la coordination rurale, c'est d'avancer dans les dossiers. Si le fait de le rencontrer peut faire avancer, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on attend. On n'attend pas aujourd'hui de la considération de façon plus ou moins importante. Ce que l'on demande, c'est que les dossiers que l'on a présentés, quels que soient les syndicats, prennent consistance financièrement. C'est tout. Après, on ne sait pas, nous, dans l'organigramme, qui commande, qui exécute. Ce n'est pas notre problème. Nous, on a demandé, par exemple, on a eu, puisque Mme Pannier-Runacher était ministre de la COP avant, il y a eu des assises. Qu'est-ce qui se passait dans les assises? Les assises, la position de la France et de l'Europe était en position de faiblesse, comme on est, nous, aujourd'hui, agriculteurs. On est sortis, au bout des 3 ou 4 jours, par une synthèse. Nous, ce qu'on voudrait, c'est des assises de l'agriculture. On fait 2 ou 3 jours ou 4 jours de réunion, et on sort avec une synthèse qui convient à l'ensemble des agriculteurs. Là, on perd du temps avec des échanges, des va-et-vient entre ministères, entre attachés parlementaires. Mais c'est comme la loi d'orientation. Alors, on ne sait pas d'où elle sort, mais elle ne nous convient pas. Donc, c'est ça qui est dramatique. C'est qu'on fait, de son côté, le monde agricole aujourd'hui est régi par la région parisienne. Et ça ne va pas le faire au niveau français.
Eh bien, merci Patrick Legras d'avoir fait passer le message au gouvernement dans Europe 1 midi week-end. Vous qui êtes porte-parole de la coordination rurale. Midi 47 sur Europe 1. Nous allons parler de sport comme chaque week-end, bien entendu, d'ici quelques instants. Jacques Vendroux sera avec nous. Championnat, Ligue des Champions. On commence à entrevoir la fin de la saison. À tout de suite.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Je vous donne rendez-vous demain de 19h à 21h pour Europe 1 Soir, nouvelle formule. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée avec des invités et les voix d'Europe 1.
Europe 1 Soir.
présenté par Pierre de Villeneuve.
Alors rendez-vous demain de 19h à 21h sur Europe 1.
En 2024, les enjeux pour l'économie du sport en France sont nombreux. Comment cette année sportive servira-t-elle de vitrine aux entreprises tricolores? Réponse ce mardi dès 21h sur Europe 1 dans La France Bouge, présenté par Elisabeth Assayag, avec Alain Di Crescenzo, le président de CCI France, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais vous remercier pour votre application Mon Leclerc.
C'est gentil, madame.
Ah bah oui, parce qu'entre les applis pour éclater du papier bulle virtuel, celle pour avoir une voix d'alien et celle pour caresser des chats, ah bah ça fait du bien, une appli qui sert enfin à quelque chose.
Toutes nos promos toute l'année, tous vos tickets Leclerc à portée de main et des bons de réduction personnalisés. L'appli Mon Leclerc, elle a tout pour défendre votre pouvoir d'achat. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre également consultable sur www.e.leclerc.
Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier.
Deuxième partie déjà d'Europe 1 Midi Week-end, il est grand temps de parler de sport, il y a encore beaucoup d'enjeux et si peu de temps pour se maintenir ou bien accéder à l'Europe. On va y revenir dans un instant avec Jacques Vendroux qui vient de me rejoindre dans le studio. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Et d'abord on va parler du Paris Saint-Germain avec un petit rappel de ce qui s'est passé hier soir. Paris qui n'a pas réussi à gagner contre le Havre hier. Match nul, mais 3 partout, qui Cédric Chasseur retarde hein, le sacre parisien.
La fête attendra, mais cela n'affecte pas les supporters parisiens qui auront tout au long du match donné de la voix. Car le but de Gonçalo Ramos en toute fin de match offre à Paris plus qu'un point, selon l'entraîneur Luis Enrique.
Ce but nous donne le titre, on est champion. Qu'il y ait une fête ou pas, ça m'est égal. Même si on ne marque plus aucun point, on sera champion.
Il faut dire qu'avec 12 points d'avance sur Monaco et un goal average très favorable, il est désormais quasi impossible que le titre échappe à Paris. Warren Zaïre-Emery, le jeune milieu de terrain du PSG.
Bon, on est très contents parce que ça montre aussi la régularité qu'on a eue tout au long de la saison. Et c'est quelque chose de pas facile et ça montre la bonne saison qu'on a faite.
Il faudra donc plus que 3 buts encaissés face à la deuxième pire attaque de Ligue 1 pour démoraliser des Parisiens libérés désormais du poids de la Ligue 1. Fini de se cacher, le PSG peut désormais officiellement tourner les yeux vers Dortmund et cette demi-finale allée de la Ligue des Champions mercredi soir.
Est-ce que Paris n'avait pas déjà les yeux et la tête à Dortmund, Jacques Vendroux ?
Bien sûr, le match de mercredi est extrêmement important pour le Paris Saint-Germain. C'est une demi-finale quand même de Ligue des Champions de football, c'est le match aller. Et quelque part, psychologiquement, moi je comprends que le match du Havre, même si ça n'a pas été un mauvais match, 3 partout, même si le Paris Saint-Germain a encaissé 3 buts, ce qui est quand même très inhabituel pour ce club, je me permets simplement de dire que c'est presque logique, c'est traditionnel qu'avant un grand match de Ligue des Champions, que ce soit dans n'importe quel club européen, eh bien il y a un petit peu de laisser-aller. Allez, on va dire que le match hier soir était poussif, donc c'est normal.
C'est normal,
il ne faut absolument pas s'inquiéter.
Il ne faut pas s'inquiéter, Paris sera de toute façon champion, que ce soit la semaine prochaine ou la semaine suivante. Est-ce qu'elle vous plaît, cette fin de saison, Jacques ?
Elle est passionnante, elle est excitante, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a le Paris Saint-Germain, évidemment, qui est sûr d'être champion. Mais après, vous avez l'AS Monaco, après, vous avez surtout l'équipe de Brest. Dans le bas du tableau, eh bien, vous avez aussi des équipes qui ne sont pas sûres de rester en Ligue 1. Et puis, ne l'oublions pas, c'est sans doute le plus important, pour la première fois depuis très très longtemps, d'ailleurs ça n'a jamais existé, les 3 premiers du championnat de France de Ligue 1 vont disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Et le 4e, eh bien, disputera ce qu'on appelle le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Et le 5e et le 6e disputera les différentes Coupes d'Europe.
Et ça fait évidemment, ça fera du monde, du beau monde en Coupe d'Europe l'année prochaine. Alors c'est vrai qu'on a les habitués pour la Ligue des Champions. On a Monaco, il y a Lille qui est quand même également bien placé. Et Brest, Jacques, qui fait quand même une saison hors norme.
Brest fait une saison exceptionnelle. Brest, ça apporte de la fraîcheur au football. Vous savez, on a un petit peu tous tendance, moi le premier, de dire bon, le Paris Saint-Germain va être champion, Monaco va être 2e, Lille va être 3e, 4e l'Olympique de Marseille. On a tendance à faire ce qu'on appelle les questions et les réponses.
C'est
ça. Bien là, Brest et peut disputer la Ligue des Champions. Moi, de toute façon, mon trio, il est très simple. C'est premier le Paris Saint-Germain, 2e l'AS Monaco et 3e Brest. Parce que Brest, c'est un super club et c'est un club qui amène beaucoup de fraîcheur donc au football français.
Avec un super entraîneur.
Éric Roy, super entraîneur. Et donc, moi j'aimerais bien que Brest fasse la Ligue des Champions, par exemple.
Mais ce ne serait pas dans le stade, Francis Leblay. Là, ce serait dommage quand même. Hein, parce que
cela dit, quand vous faites la Ligue des Champions, vous avez des normes à respecter pour tous les clubs européens. Donc il faudrait que Brest, il faudrait que, ben, je sais pas, il faudrait
soit hébergé
que...
chez un voisin breton.
Voilà, voilà, ils vont ça entre Guingamp, il y a solidarité des solidarité. Bretons.
Un mot du programme de ce soir dans le studio des légendes peut-être, Jacques.
Alors ce soir on va parler surtout du Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
On va parler évidemment du match de mercredi. On va parler évidemment du match de Rennes. On va parler de Brest aussi. C'est-à-dire qu'on va faire un patchwork aussi de tous les résultats de l'après-midi, parce que vous avez 5 matchs cet après-midi entre 13h et 21h.
Donc il y aura un beau programme. Merci beaucoup Jacques Vendroux, à tout à l'heure pour le studio des légendes. On va parler de la semaine à venir avec le brin de muguet, mercredi 1er mai, et peut-être une mauvaise nouvelle, l'hiver humide et doux ne fait pas les affaires des vendeurs de clochettes. Illustration à Saint-Philbert de Grandlieu en Loire-Atlantique, Charles Guyard.
Ça c'est du 5 ans, là-bas c'est du 6 ans, ça c'est du 4 ans, et le dernier au bout c'est du 3 ans.
Dans son exploitation au sud de Nantes, Philippe Nolot jette un coup d'œil à ses rangées de muguet où poussent en principe quelques 600 000 brins, mais cette année, le compte n'y sera pas.
Ça c'est du muguet qu'on n'a pas ramassé parce que les clochettes sont pas venues. On a beaucoup de ça cette année, c'est à 3 carrés comme ça. Est-ce que nous le fait là que les niveaux d'eau ont été hauts cette année tout l'hiver a fait que les racines ont été un peu stressées et là la levée ça a été moyen. Là les derniers jours il a fait des vents à l'est, température basse, donc le muguet avançait vraiment pas vite du tout. Il nous a manqué de brins.
Et des clochettes avortées pour le 1er mai, évidemment, c'est une mauvaise opération pour les producteurs qui misent tout sur cette date unique.
C'est beaucoup de risques pour une journée. Il y a tellement de paramètres qui font que tout est possible. Ça représente aux alentours de 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est pas négligeable du tout, non. C'est un gros pari, il faut pas se rater.
Voilà pourquoi les exploitants qui ne font que du muguet sont particulièrement rares, la plupart ayant diversifié les cultures, comme Philippe Nolot qui, dès la semaine prochaine, passera en mode maraîchage.
Donc on va posséder des clochettes aux concombres et à la tomate.
Charles Guyard pour Europe 1, mai qui arrive avec son lot de ponts. 8 mai, jeudi de l'Ascension, dans 10 jours, et peut-être l'occasion d'une escapade sans votre animal de compagnie. Alors comment le faire garder ? Mathieu Prior s'est renseigné.
Depuis maintenant 8 mois, Abla, 31 ans, garde Mike, un spitz nain âgé d'un an, lorsque sa maîtresse est en vacances. Avec Pancake, son propre chien, ils sont tous les trois devenus inséparables.
Ils sont tout le temps avec moi, peu importe ce que je fais, si je vais au supermarché, si je vais faire une course. On passe la journée ensemble, on discute ensemble, on danse ensemble.
Depuis la création d'Empreinte Mon Toutou il y a 7 ans, plus de 500 000 chiens ont ainsi trouvé une famille d'accueil pendant les vacances. Thibaut Pfeffer est le fondateur de l'application.
Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de payer un pet sitter pendant 2 semaines, parce que ça peut coûter vite. Très cher. Et parfois, on sort des personnes de situations compliquées dans lesquelles ils devraient se séparer de leur chien. Et grâce à notre réseau de bénévoles, ils trouvent de l'aide.
Et le marché potentiel dépasse l'imagination. Nous possédons plus de 80 millions d'animaux de compagnie, tous candidats potentiels à la garde d'été. Les plateformes se multiplient à tous les prix et pour toutes les espèces, du chat au lapin, en passant par le poisson rouge, les araignées et même les serpents. De quoi passer des vacances en toute tranquillité.
Mathieu Prior pour Europe 1. Et puis on va terminer cette édition avec le coup de cœur du monsieur bande dessinée d'Europe 1, Sébastien Bordenave. Actualité olympique oblige. On vous rappelle que la flamme est en ce moment en pleine mer Méditerranée à bord du Bellem, eh bien, son actualité à lui se porte sur un ouvrage consacré à Pierre de Coubertin.
Elle s'appelle Pierre de Coubertin, entre ombre et lumière, elle décrit parfaitement la personnalité complexe de l'inventeur de la formule « l'essentiel c'est de participer », même s'il n'a jamais prononcé cette phrase. Il déclare « l'important dans ces Olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part, c'est plus long ». Dans cette BD de Xavier Bétaucourt et Didier Pagot, on admire le long chemin tortueux des premiers JO modernes d'Athènes de 1896. À la mort du baron à Genève, son cœur embaumé sera déposé dans une stèle à Olympie en Grèce. L'humanisme et le pacifisme de Pierre de Coubertin vont devoir cohabiter avec une misogynie courante à l'époque. L'exaltation de l'athlétisme mâle à l'applaudissement féminin pour récompense, et ces jeux servent l'extension coloniale. Les sports doivent être encouragés chez l'indigène à condition de ne pas les préparer à une rébellion future. Reste que la BD regorge d'anecdotes folles et rend un hommage graphique à cet idéaliste, un hommage non idéalisé, donc un vrai hommage.
Le conseil lecture de Sébastien Bordenave pour Europe 1. Il nous reste à voir le temps, Mickaël Poteau. En gros, c'est pluie pour tous ?
Oui, exactement, Lénaïque. Et ça, c'est à cause des deux dépressions qui stagnent aujourd'hui au-dessus de nos têtes. Alors d'abord, celle placée sur la Méditerranée qui apporte de la pluie du Languedoc jusqu'aux frontières allemandes. On attend une quantité d'eau assez élevée. Dans le sud, principalement, de 2 à 4 semaines de pluie cumulées en 24 heures sur les Cévennes, de 2 à 3 semaines sur le Lyonnais. Alors, nous le disions tout ce matin, les végétaux et les sols sont capables de tout absorber. Voilà pourquoi...
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
Exactement. Voilà pourquoi ces régions sont surveillées, mais pas en vigilance. La seconde est située sur la mer du Nord, apportant là aussi de la pluie. pluie pouvant déborder sur l'île de France en fin de journée. Les averses de ce matin sur les côtes normandes et des Pays de la Loire jusqu'au Bordelais se font plus rares cet après-midi, mais seront plus orageuses. Enfin, seule la Corse profite d'un très beau soleil. D'ailleurs, c'est à Ajaccio qu'on relèvera la plus forte température cet après-midi, 26 degrés. Ailleurs, prévoyez 12 à Calais, 13 à Mâcon, 14 à Brest, 15 à Nîmes, 16 à Nantes, 17 à Limoges, 18 à Mont-de-Marsan et 19 à Nice.
Merci beaucoup, Mickaël. Et c'est déjà la fin d'Europe 1 Midi Week-end. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce rendez-vous d'information. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Enquête d'Esprit, Émeric Courbet.
Midi 30, 13h.
Europe 1 Midi Week-end. Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Aujourd'hui, grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr.
Il est 13h sur Europe 1, on fait le point sur l'info avec vous, Lénaïque Monnier.